Panorama Économie.
Madame, messieurs, bienvenue dans Panorama économique sur Radio Capi. Au sommaire, 38 taxes aperçues dans les secteurs fluvial et lacustre ont été supprimées par le gouvernement. L'arrêté a été signé par le gouvernement central. Et puis, ils se sont réunis le week-end. Plus de 200 entrepreneurs étaient en forum économique sur l'accès au financement. Ils ont mis en place des stratégies pour résoudre les difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises de la RDC. Quelles sont les responsabilités sociétales d'une entreprise ou encore que doit faire une entreprise pour développer les secteurs dans lesquels elle est implantée? La Chambre de commerce, de l'industrie et de métiers a réfléchi sur ces questions. Aujourd'hui dans Panorama économique, je suis autour de deux dames. D'abord Nadine Foulantimba qui revient dans l'équipe. Donc elle et moi vous présentons ce magazine économique. Bonjour Nadine.
Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs.
Nous sommes dans cette émission avec une autre dame. Elle est notre invitée, elle s'appelle Katia Mouswaga. Elle est attachée au cabinet Limbéré Consulting et coach des PME. Je pense avoir bien dit.
Oui, bien sûr. Bonjour Nadine, bonjour François, bonjour chers auditeurs.
Et bienvenue dans Panorama économique.
Merci.
Panorama économique, le dossier.
Commençons par le premier dossier, Nadine.
Oui, François, comme vous le savez, 38 taxes perçues dans les secteurs fluvial et lacustre ont été supprimées par le gouvernement. Dans un arrêté interministériel signé le 19 juin dernier, 9 membres du gouvernement, dont 2 vice-premiers ministres, jugent le caractère de ces 38 taxes illégales.
Alors, nous avons accompagné les armateurs dans plusieurs de leurs manifestations où ils s'inquiétaient de la multiplicité des taxes au port de la RDC. Nadine Foulantimba.
Les armateurs dans plusieurs de leurs manifestations, s'inquiétaient de la multiplicité des taxes au port de la RDC. Et depuis quelques jours, ils ont obtenu gain de cause. Aujourd'hui, il s'agit des 38 taxes sur 46 qui ont été supprimées. Parmi ces taxes, 10 étaient perçues par les commissariats fluviales comme la taxe des demandes d'autorisation des chargements et déchargements, la taxe des visites de partance, des visas d'arrivée et des visas de départ. La DGM percevait elle aussi 8 taxes et là, on peut citer la taxe achat autorisation déplacement interportuaire d'un bateau, la taxe de formalité départ et la taxe d'autorisation des départs. Il y a aussi la DGDA à qui on payait 5 taxes, dont la taxe des déclarations marchandises et celle des demandes d'autorisation des chargements et déchargements. Les provinces avaient aussi leurs taxes comme celle sur le produit agricole. Il est difficile de dire jusque-là ce que représentent en termes d'argent les taxes supprimées. Mais quant aux 21 taxes qui restent, on peut citer la taxe d'implantation, les 30% sur le chiffre d'affaires et la taxe rémunératoire annuelle. Et les armateurs trouvent que c'est encore à un taux élevé. Donc, le gouvernement doit également le revoir à la baisse. Notez aussi que les armateurs paient également la taxe foraine. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas être concernés par cette redevance qui ne concerne que le voie routière. Pour rappel, les armateurs réclamaient la suppression des 46 taxes jugées illégales sur 59 perçues par plusieurs services de l'État.
Voilà, merci Nadine Foulantimba. Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique et nous avons comme invité Katia Mouswaga. Elle est attachée au cabinet Limbéré Consulting et coach des PME. Katia, vous avez suivi avec nous cette actualité. Les taxes que payent les armateurs, c'est au total 59 taxes. Mais aujourd'hui, 38 ont été supprimées. C'est bien bon, mais les armateurs estiment que c'est encore un taux élevé.
Oui, mais il est bien de voir quand même qu'il y a un effort fait pour favoriser l'entrepreneuriat, parce que 59 taxes, ça paraît vraiment excessif. Donc je pense qu'il y a une amélioration là un peu du climat des affaires pour les armateurs. Bien sûr, je pense qu'il y a certaines taxes qui devraient certainement être révisitées ou refondues, mais c'est vrai que c'est un premier pas pour favoriser en tout cas ou améliorer les conditions des affaires des armateurs.
Vous estimez que quand il y a beaucoup de taxes que l'État réclame à la population ou aux opérateurs économiques, cela fragilise le climat des affaires?
Oui, tout à fait, parce que on ne peut pas dire que le peuple congolais n'est pas entrepreneur. Bien au contraire, on voit des exemples autour de nous, beaucoup d'exemples d'entrepreneuriat, mais d'entrepreneuriat très souvent informel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont peur de toutes ces taxes ou toute tracasserie administrative qu'on peut leur demander. Donc déjà, faire un geste en limitant les taxes et en gardant uniquement les essentiels n'est pas. Et en fait, un encouragement très fort pour les entrepreneurs, déjà pour passer du milieu informel au milieu formel. Et pour ceux qui sont dans le milieu formel, eh ben, de les aider à accroître leur entreprise.
Vous savez, le gouvernement cherche à maximiser les recettes. C'est pourquoi il instaure des taxes dans presque tous les secteurs. Et pourquoi aujourd'hui on accepterait que les taxes soient supprimées pour favoriser les climats des affaires alors qu'on veut également maximiser les recettes?
Alors l'intérêt pour développer un pays n'est peut-être pas de baser toutes ces rentrées d'argent sur des recettes qui sont basées sur les taxes. Si vous regardez bien, je ne dis pas qu'il faut éliminer toutes les taxes, il faut éliminer celles qui sont illicites et garder celles qui sont utiles vraiment à l'État. Mais il est toujours plus intéressant d'avoir beaucoup plus d'entrepreneurs qui payent de petites taxes que d'avoir très peu d'entrepreneurs qui sont mis sous pression très fortement. À long terme, c'est plus intéressant donc d'avoir un vivier plus important d'entrepreneurs qui payent certes des taxes, mais qui ne sont pas des taxes rebutoires pour leur activité. Et à long terme, je pense que tout le monde y gagne.
Voilà, nous allons prendre notre deuxième sujet de la semaine. Le forum économique sur l'accès au financement s'est tenu le week-end dans la capitale congolaise.
Organisé par les fonds de promotion de la microfinance, FPM, ces assises ont réuni plus de 200 entrepreneurs. Le but principal était de rencontrer les différents acteurs de l'appui aux petites et moyennes entreprises et parler avec eux des difficultés et besoins des PME, parmi lesquels le régime fiscal non incitatif, comme l'explique le directeur général du FPM, Jean-Claude Tetika, est au micro de Paul Matendo.
Les entreprises qui jouent un rôle le plus important dans le pays, c'est-à-dire les MPME, qu'on appelle les micro et petites et moyennes entreprises, n'ont pas beaucoup d'accès à certains financiers. Et on ne peut pas entrevoir un développement sans accès au financement. Alors ce que nous essayons de faire, effectivement, c'est de soutenir les institutions bancaires et tout pour pouvoir les aider à aller, n'est-ce pas, dans le financement, d'accroître les rapports aux institutions financières. Pour moi, le système fiscal appliqué aux PME n'est pas incitatif. Voilà, il faut qu'il y ait un régime spécial et qui favorise le développement. Donc, si vous voulez, après, il y a maintenant de plus en plus de la concurrence, des grands groupes qui, normalement, devaient rester les grands distributeurs. Maintenant, ils descendent très bas, même pour faire le retail, ce qui fait que ça tue les petits entrepreneuriats. Et donc, et ce que nous, on essaie d'élever, étant que FPM, c'est la partie accès au financement.
Oui, c'était Jean-Claude Dontetika. Katia, vous êtes coach des PME. Alors, le système fiscal n'est pas incitatif, il ne favorise pas la promotion des PME.
Alors, concrètement, il faut déjà que les PME aient l'information. Il y a très peu d'informations accessibles déjà, premièrement certainement sur le financement et aussi certainement sur les marchés qu'ils peuvent avoir. Donc cette ouverture par rapport, cette information, on va dire information de manière générale, information économique, est importante pour la survie d'une entreprise et donc d'une petite et moyenne entreprise.
Mais vous reconnaissez que les PME congolaises n'arrivent pas à avoir accès au financement parce qu'elle n'arrive pas à initier des projets bancables, ça vous le savez. La Banque centrale a même déploré ça. Et vous dites que vous coachez les PME, vous les aidez à initier des projets, parce que la plupart des PME n'arrivent pas à initier des genres de projets qui peuvent être financés et obtenir de crédits pour leur épanouissement.
Alors concrètement, par rapport à mon bagage donc de mes études, j'ai un master, un MBA d'Oxford, donc une grande université anglaise. Et donc du coup, je peux apporter des compétences ou des formations ponctuelles aux entrepreneurs, premièrement par rapport à leur business plan, c'est-à-dire comment ils mettent en place leur idée et ils formalisent leur idée pour qu'elle puisse être vendable auprès de bailleurs de fonds, de un, et ensuite après les accompagner pour structurer en fait leur entreprise naissante en leur apportant des formations dans des domaines dont ils ont besoin, donc peut-être marketing, comptabilité, ressources humaines par exemple, pour pouvoir renforcer leur capacité à gérer une entreprise.
Alors, une expérience avec un pays qui a également été dans la même difficulté est arrivée à travers des formations, des encadrements à réussir pour les PME intégrer le milieu financier.
Alors, par rapport à mon expérience personnelle, moi j'ai plus de connaissances du milieu indien en fait, de l'Inde,
oui.
Et où en fait les entreprises familiales sont très dynamiques. Les entreprises familiales les plus connues sont les multinationales telles que Tata ou ArcelorMittal, mais il y a beaucoup de PME familiales qui se mettent en place. Et concrètement, ils n'apprennent pas uniquement dans les salles de classe, c'est vraiment apprendre en faisant. c'est-à-dire donner le minimum de formation pour avoir un point de départ et pouvoir commencer, mais surtout les accompagner sur le terrain pour que ça reste très concret par rapport à leurs besoins spécifiques. Et je pense que cette méthode est la plus appropriée dans un environnement où très souvent tout change très rapidement, que très souvent aussi la théorie qui a été faite sans tenir compte éventuellement de notre culture ou de certaines réalités que nous vivons ici, cette théorie est difficilement applicable directement. Donc le mieux, c'est de donner une petite base et ensuite d'accompagner, j'allais dire quasi au jour le jour, pour pouvoir être sûr que les compétences qu'on donne répondent à un besoin concret, réel, et toujours être en contact avec le terrain.
Donc aujourd'hui, les entreprises familiales, pour la RDC, c'est très compliqué, c'est pas le même contexte que l'Inde, par exemple. Alors vous pensez qu'il serait mieux de faire quoi pour permettre aux PME de s'épanouir, par exemple?
En fait, j'ai beaucoup étudié le modèle indien, tout simplement parce que j'y vois des similitudes avec les réalités africaines. Mmh. Premièrement, du point de vue culturel, ils ont un peu ce sens de la famille, ce sens de reconnaître aussi les ancêtres, etc., qui est assez proche de ce que nous vivons en point de vue culture. Mais également, ils ont un contexte qui est assez similaire au nôtre, c'est-à-dire avec beaucoup de challenges, que ce soit des challenges énergétiques par rapport à l'électricité, des challenges sociétaux par rapport à la pauvreté ou à certaines conditions de vie. Et je me rends compte que finalement, le modèle familial peut avoir une certaine force si on le met en place avec discipline. C'est ce que un peu j'en ai parlé en fait pendant l'atelier FPM sur savoir recruter des employés performants, parce que le sous-thème était comment éviter les contraintes familiales. Mais il se trouve que si on regarde beaucoup de modèles, le modèle allemand par exemple, repose à 99% sur des PME, et dans ces 99%, il y a 95% d'entreprises familiales. Donc la question est posée: est-ce que travailler en famille est un avantage ou un inconvénient? L'Allemagne a su le tourner en avantage en y mettant de la discipline. L'Inde est aussi en train de le tourner en avantage en y mettant de la discipline. Donc je pense qu'il y a une voie ouverte ici pour le Congo si on gère notre entreprise, même si on embauche des membres de notre famille, mais en y mettant de la discipline et de l'expertise.
Voilà, je rappelle que nous sommes dans Panorama économique, que nous allons poursuivre cette émission, et c'est Katia Moussoga qui est notre invitée. Nadine Foula, nous allons poursuivre, aborder le troisième dossier de la semaine. C'est pour parler de l'atelier sur la responsabilité sociétale des entreprises qui s'est clôturée vendredi dernier ici à Kinshasa. Il a été organisé par la Chambre de commerce, de l'industrie et de métiers.
Le participant à ces travaux de deux jours recommande au pouvoir public, entre autres, de mettre en place un cadre juridique qui réglemente la question de la responsabilité sociétale des entreprises.
Alors, Katia Moussoga, tu as été d'ailleurs l'une des intervenantes à cet atelier. Expliquez-nous un peu, en des termes clairs et simples, ce que l'on peut comprendre par responsabilité sociétale d'une entreprise.
Alors pour moi, de manière claire, je définis la responsabilité sociétale de l'entreprise comme les actions concrètes à mettre en place dans le domaine du développement durable. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 70, on a pensé l'entreprise uniquement comme moteur économique. Et on a oublié un peu ce que moi j'appelle un peu du bon sens, c'est-à-dire qu'une entreprise travaille aussi dans un contexte environnemental et dans un contexte sociétal. Donc sa performance, certes économique, puisque ça reste le but de toute entreprise, dépend quand même du contexte environnemental et sociétal de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rechercher le profit sans tenir compte de l'environnement où on vit, ou bien des conditions de la société où on est implanté, et tout simplement rechercher un profit à courte durée. Or, si on veut qu'une entreprise soit durable et rentable dans la durée, elle doit s'assurer qu'il y a aussi un équilibre environnemental et sociétal qui est mis en place dans le contexte local où elle opère.
Responsabilité, disons sociale d'ailleurs, c'est les termes que l'on peut également utiliser, ça passe. Alors, pour le contexte où nous sommes en RDC, il y a plusieurs entreprises, surtout dans les mines également, les entreprises pétrolières, vous savez, il y a un problème de tenir compte de cet aspect-là. Mais il y a les lois qui régissent les pays qui ne tiennent pas de fois compte. Nous avons les codes miniers dans lesquels la population pense qu'elle ne se retrouve pas. C'est les opérateurs économiques qui les pensent également. Mais tout doit passer par là pour que les entreprises tiennent compte de cet aspect, l'aspect du milieu, comme vous l'expliquez.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un point qui a été mis en avant dans la révision du code minier, donc dans le prochain code minier qui doit sortir d'ici peu. Il y a eu en fait des points qui ont été apportés pour renforcer ce côté législatif de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des normes internationales qui se mettent en place dans ce domaine. Et il faut savoir aussi que de manière générale, les multinationales ont des obligations de faire des rapports sur leur activité environnementale et sociétale. Donc, même s'il est très difficile d'appliquer ces normes internationales, il faut quand même savoir que il faut accompagner ces entreprises dans la manière dont elles mettent en place ces actions, dont elles décident du domaine d'action et surtout si elles mesurent l'impact réel qu'il y a sur les communautés locales.
Alors vous êtes parti de quel constat? Qu'ici en RDC, plusieurs entreprises ne tiennent pas compte de cet aspect du milieu, elles ne tiennent pas compte de la population?
Alors j'ai constaté qu'il y a des efforts faits par les entreprises et très souvent elles ne savent pas comment mener leurs actions sociétales. Les grandes entreprises sont conscientes de leurs responsabilités, mais il y a un balbutiement en fait dans les actions qui sont faites et très souvent les actions sont un peu sporadiques et pas construites dans le moyen ou dans le long terme. Ça, c'est un point. Et aussi, on n'arrive pas clairement à voir les impacts de ces actions. Non pas qu'il n'y en a pas, mais tout simplement parce que peut-être ils ne sont pas mesurés ou bien peut-être ils ne sont pas tout simplement divulgués. Et donc, c'est dans ce sens-là que le cabinet Libéré Consulting offre des services auprès des entreprises pour pouvoir faire un diagnostic de leur action RSE, les accompagner dans leur stratégie, la mise en place et surtout le suivi et la mesure des impacts réels de leur action sur leur communauté locale.
Panorama économique, la rétrospective de l'activité économique de la semaine se poursuit. Prenons cette autre actualité abordée la semaine, c'est l'évaluation de deux projets d'alimentation en eau potable en milieu urbain et semi-urbain.
Le premier projet a été financé par la Banque mondiale à hauteur de 190 millions de dollars et l'autre par la BAD pour un montant de 104 millions de dollars en dehors de 12 millions de dollars autres du gouvernement congolais. Le comité d'exécution de ce projet a présenté lundi aux agents de la Régie des eaux, les grandes réalisations dans les centres ciblés, dont Chikapa, Matadi et Kinshasa. Et d'après les secrétaires généraux du syndicat des travailleurs de la Régie des eaux, avec un taux de décaissement de 63%, les matériels ont été achetés et une bonne partie de la population dans certains milieux peut espérer d'ici 2015 bénéficier de l'eau potable. Jean Bosco Mwaka le dit au micro de François Kadima.
À Matadi, le PMI a redonné espoir à Matadi parce que pratiquement tous les groupes motopompes étaient pratiquement fatigués et tout pouvait s'arrêter. Mais grâce au PMI, on a remis pratiquement Matadi en service. À Kinshasa, nous avons déjà, avec ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui, 250 000 compteurs qu'on a placés. Donc il ne reste plus que les placements de ces compteurs. Donc il y a les travaux au niveau des réseaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc nous sommes déjà en train de voir que, parce que dans le secteur de l'eau, on ne peut pas investir aujourd'hui, demain vous avez la solution. Donc il faut attendre. Donc nous pensons que d'ici 2015, nous aurons beaucoup. Et surtout, nous, travailleurs, vous savez qu'à la Régie des eaux, il s'est posé les problèmes du plan social. Le plan social, il était prévu 30 millions de dollars. On n'a consommé que 13 millions. Donc les 17 millions ont été réalloués à d'autres postes. Donc c'est déjà une bonne chose. Bon, les fonds d'investissement pour l'exploitation, les 12 millions de dollars, on a déjà acheté. On a des conteneurs déjà sur place à Kinshasa, où il y a des tuyaux. Il suffit seulement qu'on puisse commencer à récupérer les tuyaux et poser. Les redressements de la Régie des eaux passent par nous-mêmes travailleurs.
Katia, un commentaire. Les institutions financières apportent de l'aide à la RDC dans plusieurs secteurs. Ici, nous parlons de l'eau, avec ses 190 millions de dollars de la Banque mondiale et 104 millions de la BAD.
Oui, concrètement, ça rejoint un peu ce que je disais en début de l'émission, c'est-à-dire que l'argent, c'est bien, mais il faut avoir un projet. Il faut aussi avoir des acteurs sur terrain qui mettent en place le projet. Très souvent, on focalise du coup sur les besoins financiers et l'argent, mais il peut être là. S'il n'y a pas d'acteurs vraiment sur le terrain, l'argent servira à rien. Donc, je suis très contente de voir en fait que ce projet est en train de se réaliser, mais que finalement, très souvent, la réussite d'un projet réside dans les acteurs et du coup, les acteurs locaux qui délivrent en fait ce projet concrètement.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà, prenons l'actualité économique en bref. Début mardi du contrôle économique à travers les maisons commerciales opérationnelles dans la ville de Mbujimayi. Nous sommes au Kasaï oriental. Ce contrôle effectué par une délégation du ministère de l'économie venue de Kinshasa consiste en la vérification de la régularité des documents de commerce, notamment le registre des commerces, l'identification nationale, le permis d'exploitation et la patente. Le niveau de prix sera également passé au crible par l'entremise de la structure de prix. Cette mission de contrôle économique durera 20 jours.
En bref également, le lancement à Kindu de la campagne des ventes des patentes pour le petit commerce par la Direction générale des recettes du Maniema. Cette patente concerne le petit commerçant, ceux qui n'ont pas de registre de commerce. Sa valeur va de 17 à 35 000 francs congolais par an. Une durée de 3 mois, l'heure est accordée pour se mettre en ordre avant de faire le contrôle avec pénalité pour ceux-là qui ne seront pas en ordre.
En territoire d'Oualekele, nous sommes au Nord Kivu. La population se plaint de la régression très sensible enregistrée dans ses activités économiques depuis plusieurs mois maintenant. Une situation consécutive à la suspension de l'exploitation minière dans cette région, mais aussi la présence de groupes armés dans les axes principaux d'approvisionnement. Du coup, la vie devient de plus en plus chère et la pauvreté gagne ses milieux. C'est pratiquement tous les domaines de commerce qui sont touchés selon plusieurs témoignages. Notez que les habitants d'Oualekele vivent principalement de l'exploitation minière ainsi que de transactions commerciales connexes. C'est notamment l'approvisionnement en produits vivriers et manufacturés contre l'évacuation de minerais entre Oualekele et les axes Bukavu, Kisangani et Goma. Voilà, la semaine, nous avons également parlé de la pose de la première pierre d'une usine de cimenterie à Kazangoulou, environ 320 km à l'est de Matadi. Selon une source du gouvernement provincial du Bas-Congo, l'enveloppe globale de cette usine est de 60 millions d'euros. 1000 emplois seront créés selon la même source qui ajoute que cette entreprise marocaine va également construire 15 000 maisons en République démocratique du Congo. Katia Moussouaga, un commentaire à placer sur l'une ou l'autre actualité passée tout à l'heure.
Oui, je vois en tout cas le dynamisme du monde entrepreneurial avec l'inauguration donc de la cimenterie, qui est un exemple concret.
1000 emplois qui seront créés.
Voilà. Donc très souvent, c'est vrai que nous regardons les grandes entreprises en se disant, entre guillemets, que le salut viendra des grandes entreprises, mais au contraire, c'est plutôt les PME très souvent qui portent le tissu économique des grandes nations. Donc favoriser l'émergence de cimenterie ou d'autres industries et pour le bien de la nation entière.
Panorama économique, matière première.
Au Kasaï oriental, nous parlons de la suspension mardi dernier des travaux d'exploitation des diamants dans la mine de Lukelenge dans le groupement des Bakwandaba et à Kabwebwa. Nous sommes dans les secteurs de Sango, territoire de Katanda. Le ministre provincial des mines qui a pris cette mesure affirme que c'est suite à un conflit minier entre les creuseurs, le propriétaire des puits des diamants et les sponsors. D'après Joseph Kazadingoy, le non-respect des conventions est à la base de plusieurs conflits miniers. Le ministre provincial des mines déclare qu'il s'engage à protéger les créateurs mal rémunérés par leur patron. Joseph Kazadingoy est au micro d'Esther Dalafina.
Vous voyez le non-respect des conventions et puis la promesse non tenue pour pérenniser la paix. Dans des mines, souvent nous prenons toujours le temps de suspendre des mesures conservatoires que nous prenons juste pour faire pérenniser la paix dans des mines. C'est d'abord le premier aspect. Le deuxième aspect ici, j'ai sillonné dans différentes mines, j'ai trouvé les conditions dans lesquelles ces créateurs là travaillent et sont exposés à beaucoup de maladies. Nous devons appliquer la politique qui protège d'abord ces jeunes garçons-là qui souffrent. On doit dire non à ce genre de traitement, parce que ce sont des traitements insupportables. Ces créateurs doivent quand même retrouver leur intérêt bafoué, piétiné par les bourreaux, par ceux-là qui pensent qu'ils deviennent intouchables parce qu'ils ont l'argent. Dans les cas contraires, si on trouve que réellement ce que les créateurs ont dit, ça tient debout, ils ont raison, mais il y a des mesures que nous allons prendre pour décourager ces genre de comportements, parce que c'est vraiment à répétition. Et c'est un comportement que nous décrions à haute voix. En tout cas, ce travail mérite un
La RDC, un pays très riche, il y a du diamant, les diamants exploités. Vous avez suivi le ministre provincial de Mines. Après que la MIBA ait connu beaucoup de problèmes, les créateurs artisanaux se débrouillent à leur manière pour exploiter le diamant. Mais ils sont utilisés par des grands patrons qui ne respectent pas les clauses.
Oui, c'est un exemple concret où là, on parle plutôt de responsabilité et la responsabilité a été prise par le pouvoir exécutif provincial, concrètement, pour s'assurer que les conditions des creuseurs artisanaux soient respectées. Donc, on a beaucoup parlé de la responsabilité sociétale des entreprises, mais j'aimerais du coup élargir sur la responsabilité sociétale des organisations.
Oui.
Parce que c'est un cas concret. Là, avec donc l'exploitation de diamants dans le Kasaï, où chacun a sa part de responsabilité et chacun doit jouer son rôle. Donc on parle aussi de responsabilité sociétale des organisations, que ce soit des institutions publiques ou ici du pouvoir exécutif, où ils ont mis en place des mesures pour le bien en fait des creuseurs artisanaux.
Nous allons finir par là, mais nous parler de ton cabinet, comment tu fais et les contacts, parce que tu es en train de faire un travail pour démontrer aux entreprises qu'ils ont une responsabilité et elles doivent tenir compte de milieu.
Oui, le cabinet Libéré Consulting, donc que j'ai créé à Kinshasa depuis octobre 2013, a développé un pôle donc responsabilité sociétale des entreprises pour accompagner les entreprises grandes ou même petites, moyennes, dans leur démarche de développement durable. Premièrement, donc en posant un diagnostic sur les actions qui sont faites et en travaillant avec eux sur la stratégie qu'ils comptent mettre en place et les aider à la mise en place de ces actions. Donc pour tout ça, en fait, j'ai pu être certifiée évaluatrice d'action RSE, par rapport à une norme internationale ISO 26000. Et c'est ce bagage et ces compétences internationales que je désire mettre au service des entreprises ou des organisations, institutions publiques, pour soit vulgariser la RSE, ou bien la mettre en pratique, ou en assurer le suivi. Alors, on peut me joindre par mail, mouswaga.katia@gmail.com, ou bien aussi, j'ai un site internet, www.limbereconsulting.com.
Nous allons finir Panorama économique par là. Nadine Foulansimba est avec moi dans ce studio. C'est le week-end prochain que nous allons vous retrouver pour un autre numéro. Mais déjà, Nadine, nous allons prendre rendez-vous avec les auditeurs ce lundi avec Écho d'économie. C'est à 18h15.
Tout à fait.
Ok, on va quitter les auditeurs. Merci. Avec Katia Moussoga, attachée au cabinet Limbere Consulting, coach des PME. La mise en onde était assurée par Paul Badianyama sous la coordination de Nicole Ngaka. Merci et on se retrouve le week-end prochain.